Bienvenue dans l'Afrocast, le premier podcast business africain fait par un entrepreneur pour des entrepreneurs. Je m'appelle Alexandre Bonneau et je suis le fondateur d'Afroto. Afroto, c'est un service de création d'images qui se veut panafricain. Dans cet épisode, on revient sur le parcours de Madame Sani Mourou, ancienne cadre d'Air Afrique, ancienne ministre du tourisme et de l'artisanat, créatrice de différentes associations, dont le Toastmaster et le Lions Club Privilège, et fondatrice de Soleil d'Afrique. Un parcours super inspirant. On y comprend que tout le monde peut y arriver, qu'il faut travailler, capitaliser sur ses compétences, être résilient, audacieux et se former afin de pouvoir être prêt à répondre aux opportunités. Ce qui me stupéfait, c'est qu'à travers cet épisode, on voit clairement que Madame Sani crée sa chance. Je ne vais pas trop en dire. Installe-toi confortablement, monte le son, prends de quoi écrire. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Madame Sani.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est tout plaisir.
On va pouvoir attaquer donc cette interview en parlant un peu de vous. Je vais vous laisser la parole.
Alors, je suis un acteur de la société civile active, pas activiste, hein? Mm-hmm. Faisons bien la différence. J'opère dans une entreprise qui s'appelle Soleil d'Afrique, et Soleil d'Afrique fait de l'événementiel. Ouais. Voilà. Dans l'événementiel, on entend des conférences, des séminaires, des ateliers, des banquets de mariage ou même des banquets d'entreprise. Nous organisons aussi des festivals. Et nous sommes un centre culturel a priori. Et donc, notre propos, c'est de favoriser les échanges, les rencontres, la diversité, le partage. C'est un peu ça qui est Soleil d'Afrique. Et c'est ce dont je m'occupe désormais depuis une petite vingtaine d'années.
Wow. Oui, c'est ça. Donc, on a vu que ça existe depuis 2002. Avant d'aller plus loin dans Soleil d'Afrique, on va revenir un peu sur votre parcours donc personnel et puis professionnel. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre jeunesse?
Alors, pour tout vous dire, je suis née dans une famille, je dirais, pauvre et monoparentale. Nous étions 6 enfants élevés par notre mère seule. Et c'est pour vous dire que partant de là, et quand on considère où je suis aujourd'hui, il faut saluer les mères et ce qu'elles sont capables de faire avec un enfant à qui elles ont inculqué la confiance de soi. Et c'était tout ça, ma mère. Donc, j'ai fait l'école primaire dans une institution religieuse catholique. Donc, qui s'appelle le Collège Mariama et qui était dirigé par des religieuses canadiennes. J'ai fait donc, le Collège Mariama jusqu'en classe de terminale, jusqu'en classe de seconde. Et puis, en première, comme j'étais bonne élève en mathématiques, cette année-là, ils avaient décidé que les bons élèves en mathématiques allaient être transférés à Isabiri et recevaient des élèves de Isabiri qui faisaient série littéraire à Collège Mariama.
Donc,
il y avait un échange d'étudiants. Mm-hmm. Et comme ça, je me suis retrouvée en première C à Isabiri.
Qui est l'équivalent d'une première scientifique, du coup.
Absolument, oui. D'accord. Donc, disons, c'est une première mathématique, pas scientifique. Mais j'ai quand même terminé en scientifique en faisant une terminale scientifique que l'on appelle terminale S.
D'accord. D'accord, donc vous avez passé votre bac?
J'ai passé mon bac et je vous dirais, après le bac, l'ordre des choses, c'est que l'on aille faire des études supérieures. Mm-hmm. Et moi, je n'ai pas fait ça.
D'accord.
Je me suis mariée.
Ok. D'accord.
Je me suis mariée. Et c'est un mariage qui a duré 27 ans. Mm-hmm. Mais néanmoins, à un moment, je me suis dit, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc, je me suis inscrite à l'université. Et parallèlement, donc, à ma vie de couple, j'ai mené mes études universitaires. J'ai choisi, j'allais dire, une branche facile qui pouvait allier donc, la vie de ménage et puis celle d'étudiant. Et j'ai fait des études en anglais. D'accord. Et je suis sortie donc, avec une maîtrise en anglais.
D'accord. Il me semble que vous avez fait vos études à Abidjan.
Oui, en partie.
D'accord.
Donc, la première partie s'est faite à Niamey, ici.
D'accord.
Et puis, à une période, nous nous sommes retrouvés en poste à Abidjan. Et donc, j'ai terminé mes études à l'université d'Abidjan.
D'accord. Hmm. Donc, vous finissez donc...
avec une maîtrise en communication.
D'accord. Ouais. Impeccable.
Oui.
Et du coup, comment ça s'est passé, vos études ? Vous êtes donc parti sur Abidjan parce que votre mari avait un poste qui était...
Alors, donc, peut-être que je ne vous ai pas tout dit.
Oui.
Parallèlement donc, à ma vie maritale et à mes études, mm-hmm. j'avais aussi une activité professionnelle.
D'accord.
J'étais employée d'abord à Air Afrique, ici, à Niamey.
D'accord.
Et une année, mon mari a été recruté pour travailler à Abidjan. Et moi, j'ai demandé une affectation à Abidjan. Et quand on est arrivé à Abidjan, pour les besoins de notre installation, moi j'ai pris une année sabbatique. Mm-hmm. Et j'ai mis cette année sabbatique à profit pour faire, pour terminer mes études à l'université d'Abidjan.
D'accord.
Voilà comment ça s'est passé. Alors, quand j'ai fini mes études à l'université d'Abidjan, très naturellement, je suis retournée dans mon emploi, puisque mm-hmm. c'était juste une année de mise en disponibilité que j'avais prise. Mm-hmm. Et je suis retournée à mon poste à Abidjan, ce qui m'a permis de gravir des échelons. J'ai été embauchée à Air Afrique en 1976 pour être hôtesse d'accueil des VIP.
Ah oui.
Voilà. Donc, à D'accord. l'époque, on avait des avions qui se posaient ici à Niamey très tôt ou très tard dans la soirée ou en plein midi. Et donc, Air Afrique avait... pour projet de mettre en place du personnel qui va s'occuper exclusivement des VIP. Et donc, mon travail, c'était, à l'arrivée de l'avion, d'abord, je m'imprègne de qui sont les VIP mm-hmm. qui sont dans l'avion. À l'arrivée de l'avion, on va les accueillir, on les installe, on les aide à faire leurs formalités. On s'assure qu'ils ont au sol le confort qu'ils avaient en vol. Parce que les VIP, habituellement, voyagent en première ou en business class. À l'époque, ça existait. Et puis, donc, j'étais hôtesse d'accueil VIP.
D'accord.
Ça, c'était pour mon séjour à Niamey. Maintenant, quand, après mon diplôme à Abidjan, que j'ai réintégré Air Afrique, on m'a nommée au service commercial.
D'accord.
Donc, j'étais voilà, dans la promotion commerciale et j'aidais donc à promouvoir les ventes. Après cela, j'ai été nommée responsable donc, du service accueil et assistance VIP pour tout le réseau d'Air Afrique. Donc, Air Afrique avait un réseau de je ne sais plus combien de pays. C'est un peu vieux dans ma tête parce qu'Air Afrique s'est écroulée en 2001-2002. Et Air Afrique était l'instrument de transport aérien pour l'Afrique de l'Ouest et qui assurait aussi le transport en international pour l'Afrique de l'Ouest. D'abord à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi en international pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc, après mon diplôme, à un moment, j'ai été nommée responsable de l'accueil et de l'assistance VIP sur tout le réseau d'Air Afrique.
D'accord.
Donc, j'avais sous ma responsabilité des hôtesses comme je l'ai été, mm-hmm. des hôtesses qui s'occupaient de l'accueil et de l'assistance aux VIP.
Ouais, donc, vous avez bien grimpé les échelons.
Oh oui, oui. Donc, après ça, j'ai été nommée chef de service de la publicité. Donc, je m'occupais aussi de la publicité sur tout le réseau d'Air Afrique. J'avais pour partenaire Paname en France qui faisait partie du réseau Havas. Et donc, on a travaillé longtemps ensemble pour faire la promotion des vols d'Air Afrique, des services d'Air Afrique. Et j'ai aussi été nommée cumulativement avec la fonction de chef de service publicité, chef de service fidélisation. C'est-à-dire les clients VIP dont je me suis occupée pendant longtemps, on a créé une espèce de club pour eux qu'on appelait le club préférence.
D'accord.
Donc, il y avait le club préférence et le club privilège. Mm-hmm. Donc, dans les deux clubs, il y avait des avantages spécifiques qui étaient attribués aux différents clients en fonction du point qu'ils ont cumulé selon le nombre et la qualité de voyage qu'ils faisaient.
Donc, plus ils faisaient de vols, plus ils montaient en...
Absolument. Donc, ils cumulaient des miles. Mm-hmm. Donc, plus ils faisaient de vols, plus ils faisaient des vols qualifiants. Parce que quand vous voyagez en classe économique, vous pouvez cumuler des points mais qui ne sont pas aussi importants que si vous voyagez en business class. Donc, plus vous cumulez des vols et des vols qualifiants, plus vous engrangez des points qui vous donnent droit à des avantages spécifiques. Je ne peux pas vous les énumérer parce qu'ils sont nombreux et ils ne sont plus très frais dans ma mémoire.
D'accord. Okay. Je vais juste revenir sur un petit point. Oui. Quand vous avez commencé au Centre Afrique, vous étiez donc hôtesse pour les VIP.
Oui.
Ça demande quand même beaucoup de savoir-être et de savoir-faire. Enfin, surtout de savoir être pour le coup, parce que vous dealez avec des gens très importants.
Absolument.
Est-ce que c'était inné? Est-ce que vous avez appris enfin, cela pendant votre... quand vous avez grandi?
Bon, au moment de mon recrutement à Air Afrique, on m'a donné une description des tâches que je devais faire. Uh-huh. Et j'ai suivi une petite formation rudimentaire, vraiment sur le tas, dispensée par mon supérieur hiérarchique. Et puis après, je pense que les choses sont venues très naturellement, parce que... dans cette interaction-là, vous avez la personne qui est en face de vous, vous impose pratiquement le comportement que vous devez avoir vis-à-vis d'elle. Donc, non, je n'ai pas fait d'école de relations publiques, mais j'ai beaucoup lu sur les relations publiques. Je me suis formée un peu de façon autodidacte, mais j'avais surtout un patron très prévenant et qui m'a appris beaucoup de rudiments du travail.
D'accord.
Oui.
Intéressant.
Oui.
Et du coup, donc, on arrive en 2002.
Oui.
C'est donc la décroissance d'Air Afrique.
Oh, alors, avant 2002, il s'est passé beaucoup de choses.
D'accord.
Oui, Air Afrique s'est effondrée après qu'on ait mis à la tête quelqu'un qui était supposé la redresser. Mm-hmm. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, Air Afrique s'est effondrée et on a dû... moi, je suis du Niger, pas de Côte d'Ivoire, alors que le siège d'Air Afrique était en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai dû rentrer au Niger.
D'accord.
Et puis, essayer de trouver, de quoi s'occuper.
D'accord.
J'ai pris une bonne année sabbatique.
OK, histoire de pouvoir prendre du recul.
Oui, absolument. Mais ça se trouvait que, alors que j'étais à Air Afrique, j'avais aussi des activités parallèles.
D'accord.
Dans la communication, dans la publicité, ce qui m'a permis de nouer beaucoup de relations. J'avais une petite agence de prestation de services qu'on appelait BIPS et par laquelle on faisait déjà, on a continué à faire ce que je savais faire, c'est de l'assistance aux VIP. Mm-hmm. Donc ça m'a permis de nouer beaucoup de contacts et à l'effondrement d'Air Afrique, quand je suis rentrée, j'ai observé autour de moi quelle est l'activité qui n'avait pas été prise en charge. Donc, je cherchais un créneau intéressant. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'esthétique, d'une façon générale.
D'accord.
Et en regardant autour de moi, je me suis dit, il y a de la place pour faire la promotion de l'art, en général. Donc, de l'art plastique. Alors, j'ai créé une galerie.
D'accord.
Parallèlement donc aux activités de prestation de services que je menais. J'ai créé une galerie d'œuvres d'art. Donc, je mobilisais les artistes, je leur donnais des thèmes, je leur donnais aussi du matériel pour qu'ils fassent une production. Quand ils ont produit, je fais un événement autour de leur production avec un vernissage et une exposition sur une période. Pendant longtemps, j'étais en partenariat avec Le Pilier.
D'accord.
Donc, je suis allée voir le directeur du Pilier, M. Vittorio. Je lui ai dit, bon, mais moi, je veux faire la promotion de l'art, mais j'ai besoin d'un espace de visibilité. Est-ce qu'on peut se mettre en partenariat? Il m'a dit, il n'y a aucun souci. Donc, on s'est mis en partenariat. Moi, j'accrochais des toiles chez lui. Tous les deux mois, je renouvelais les toiles. Lui, il avait les toiles en termes du déco de sa restauration. Et moi, c'était un espace de visibilité. Et les toiles étaient en vente. C'était aussi un espace de vente.
D'accord.
Et donc, c'est un partenariat qui a duré longtemps.
D'accord. Très intéressant. C'est joli. On voit que vous êtes passionné un peu d'esthétique. Vous avez commencé donc, en tant qu'hôtesse. Ensuite, vous capitalisez donc, sur tout ce que vous avez appris. Vous avez fait vos études. Vous avez accès donc à des promotions, vous grimpez les échelons. et à la fin, vous capitalisez sur tout ce que vous avez, sur toute votre expérience. Vous revenez encore du coup à travailler avec donc des VIP. Et là, vous observez un marché, vous observez vraiment ce qui se passe au Niger. Et vous voyez qu'il y a un gros manque dans l'art. Du coup, vous allez sur l'art, qui est donc quelque chose qui vous passionne. Et ma question, du coup, c'est, il n'y avait pas d'acteurs à ce moment-là?
Non, au moment où je m'installais, il y avait des producteurs. Mm-hmm. Il y avait des producteurs de toiles. D'accord. Les artistes, ceux qui produisent les toiles, ils étaient là. Mais d'une façon générale, celui qui produit n'est pas forcément celui qui fait la promotion. Et eux, livrés à eux-mêmes, ils étaient obligés donc d'être au four et au moulin. Donc, au moment où j'arrivais en 2002, je leur ai offert une tribune d'expression. Donc, je les ai réunis, je leur ai dit, bon, écoutez, vous allez produire. Si je peux vous aider pour produire, c'est une très bonne chose. Mais pour la promotion, je prends en charge donc, d'exhumer tout ce que vous produisez et de le rendre disponible au public pour qu'ils apprécient ce que vous savez faire et qu'éventuellement, toutes ces productions-là garnissent non seulement les domiciles, mais les bureaux des citoyens. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. En plus de faire la promotion des toiles que nous vendions sur les espaces dans lesquels on les affichait, je me suis mise aussi à faire de la décoration intérieure, ou dans les bureaux, ou dans les domiciles, et à la demande du client. Mais vous avez raison, tout à l'heure, quand vous avez résumé un peu mon parcours, moi, je dis à qui veut l'entendre que tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais faire, je l'ai appris à Air Afrique.
D'accord.
En tant que responsable donc, de l'accueil et de l'assistance VIP à Air Afrique, à l'époque, on avait des salons pour recevoir les clients. Mm-hmm. Et donc, je me suis occupée de la mise en place, de la décoration des salons. Et c'est comme ça que j'ai été en contact avec les toiles et avec beaucoup d'esthétique. Voilà. Et donc, très naturellement, quand Air Afrique s'est effondrée, tout ce que j'ai appris à Air Afrique, je l'ai mis à profit pour me réaliser et je n'ai aucun regret. Aujourd'hui, ce que je sais faire m'a permis non seulement de montrer qu'on peut partir d'une famille pauvre et se réaliser au plus haut niveau, et en même temps, j'ai beaucoup de satisfaction là-dedans, sans me jeter des fleurs, parce que bon, on est une grande famille dont je peux m'occuper entièrement et c'est tout plaisir.
Là, c'est joli la façon dont vous parlez de votre famille. Oui. Vous avez l'air du coup pas mal attaché à votre mère. Est-ce que c'était comme un modèle pour vous?
Oui, ma mère était une personne d'engagement, mais je pense que toutes les femmes le sont. Mm-hmm. Mais elle avait un courage exceptionnel. Je vous ai dit qu'on était 6 enfants et elle était seule à nous élever. Mm-hmm. Et donc, c'est clair, elle a été pour moi un modèle de motivation et de mobilisation qui ont fait que je n'ai jamais reculé. Donc, quand j'ai une idée, je me jette à corps perdu dans l'idée. Et puis, l'adage dit... Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Eh bien, c'est comme ça dans la vie active. Si vous avez une idée, que vous vous l'appropriez, que vous la mettez en perspective, eh bien, les moyens pour le réaliser vont vous arriver très naturellement et vous allez pouvoir le réaliser aisément.
Mmh. Ouais. D'accord, donc faut toujours travailler avec détermination.
Absolument. Il faut d'abord se structurer, s'organiser, s'asseoir, se regarder et dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Encore que l'être humain est capable de tout faire, homme comme femme. Hein? Donc, qu'on ne se limite pas à « je suis né dans une famille pauvre, je ne peux pas », ça, la limite de celui qui dit « je ne peux pas », il est limité par le mot qu'il dit « je ne peux pas ». Il faut toujours se dire « je peux le faire » et se donner les moyens de le faire. Mmh. Et souvent, on n'a pas besoin d'aller chercher. Il faut juste écouter, regarder autour de toi, soit savoir saisir les opportunités, parce que certaines personnes parlent de chance. Mais la chance, en fait, ce n'est pas compliqué. c'est quand vous êtes préparé à quelque chose et que l'opportunité se présente, eh bien, vous la saisissez. C'est comme ça qu'on dit que la personne a eu de la chance. Mm-hmm. Mais c'est juste qu'elle a su saisir l'opportunité alors qu'elle était préparée à ça.
Oui, et c'est important du coup de se préparer. Quoi. On a l'impression que les gens, il y a des choses qui leur tombent dessus par hasard.
Absolument.
Mais c'est du hasard qu'ils ont créé finalement.
Oui, tout à fait.
D'accord. Mm-hmm. OK. Et oui, c'est intéressant aussi, il ne faut pas se limiter, il n'y a pas de... Il y a tout un tas de croyances limitantes.
Non.
On nous dit, enfin souvent en fait, on berce même dans un monde où on nous dit, il ne faut pas faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et du coup, on se bride, quoi, alors que sinon, on va se couper.
Ouais. Mais en termes de préparation, j'ai vu ce matin un petit adage qui cadre tout à fait avec ce que nous disons aujourd'hui. Donc, l'adage dit quoi? Celui qui néglige de se préparer doit se préparer à être négligé.
Wow.
Je l'ai reçu ce matin.
Ok.
J'ignorais que j'aurais eu besoin de le... C'est pour vous dire que souvent, les choses arrivent quand vous vous y attendez le moins, mais quand vous êtes préparé, vous savez saisir les opportunités. Mm-hmm. Donc, voilà.
C'est ça. C'est très... Ouais. C'est profond.
Oui.
Et oui, du coup, c'est important de faire les choses. Et je pense que c'est aussi de le faire... C'est important aussi de le faire avec passion.
Oh oui. Bon, disons, oui, souvent la passion, elle vient à partir du moment où on se jette mm-hmm. là-dedans.
Mm-hmm.
Donc, mais tout ce que l'on fait avec cœur et engagement, ça devient une passion.
C'est vrai.
Oui.
Sinon, c'est compliqué de durer sur le long terme.
Eh oui, tout à fait, oui, mm-hmm. c'est ça.
D'accord. Donc, très intéressant. Donc, mais alors là, j'ai une question du coup qui me vient. Vous avez donc décidé de venir dans la culture. Vous êtes une femme. On est dans les années 2000. La position de la femme est quand même assez controversée. Le domaine de la culture aussi n'est pas forcément valorisé. On comprend donc votre choix de par vos expériences et votre passion. Mais comment ça s'est passé en soi? Comment est-ce que vous avez réussi à faire accepter donc Soleil d'Afrique et donner du coup de l'importance à votre projet?
Bon, pour tout vous dire, ça n'a pas été aisé.
Et oui.
Je me souviens que avant de créer la galerie, j'ai fait un petit sondage autour de moi et je n'ai eu personne pour m'encourager à la réalisation d'une galerie. Et l'argument qu'on me donnait, c'était que une toile, ça doit coûter entre 200 et 250 000. Et qui va t'acheter une toile à 250 000 alors qu'il peut s'acheter 10 sacs de riz pour le même montant?
Mm-hmm.
Mais, pardon, je me suis trompée. J'ai une seule personne qui m'a encouragée. Un cousin décédé aujourd'hui, paix à son âme, qui m'a dit, fais ce que tu as envie de faire. Si c'est de ça dont tu as besoin et dont tu as envie, eh bien lance-toi, n'écoute pas ce qu'on te dit par ailleurs. Je l'ai écouté et c'est parti comme ça. Mais ça n'a pas été facile. Il y avait des moments où, pour faire connaître mon projet, je devais me déplacer d'entreprise en entreprise, demander des rendez-vous donc à des patrons. Mm-hmm. Je prenais souvent mes toiles sous le bras. J'allais dans les bureaux des directeurs pour leur expliquer, bon, voilà, on a ouvert une galerie, voilà ce que nous faisons. Nous faisons de l'encadrement professionnel. Plus d'une fois, j'ai essuyé une fin de non-recevoir, mais ça ne m'a pas, ça ne m'a pas freiné. Je n'ai pas renoncé, j'ai continué. Et puis aujourd'hui, on vient me chercher pour acheter des toiles, pour décorer des environnements. Et dans l'environnement, quand on parle de décoration intérieure, ou même d'assistance, c'est simple. On m'a appelé il y a 2 jours pour me demander si je peux aller jeter un coup d'œil au salon présidentiel parce qu'ils veulent un professionnel pour le gérer. C'est pour vous dire que je ne fais plus de démarchage direct depuis tant de temps. On est devenu une référence dans l'environnement. Mais c'est à force d'engagement, de persévérance, de courage et surtout de conviction qu'on en est arrivé là.
Wow. Mmh. Et oui, là du coup, enfin, je veux juste revenir sur le courage et la conviction. C'est-à-dire qu'il y a pas mal du coup, de gens qui suivent pas forcément le projet. Vous y allez quand même parce que du coup, vous avez quand même votre vision. Vous voyez là où vous voulez aller. Et je voulais du coup revenir sur quelle était votre vision à ce moment-là. Comment est-ce que vous faisiez pour rester déterminé malgré le fait que personne ne vous suive, qu'éventuellement vous êtes allé voir donc des patrons et qui vous ont pris
qui vous ont potentiellement pas accepté ou voire qui vous ont pas vraiment considéré. Comment est-ce que vous avez fait du coup pour avoir cette chose qui vous fait persévérer, qui vous maintenez en vous disant ouais, il y a quelque chose?
Mais ça, je pense que c'est un état d'esprit, tout simplement. C'est un état d'esprit. Et donc, quand vous avez envie de quelque chose, comme j'ai dit, il faut se structurer. Il faut d'abord déterminer ce dont on a envie. Déterminer l'idée, fixer l'idée, fixer le contour de l'idée, n'est-ce pas? Et puis, s'en tenir à ça. Il ne faut pas divaguer, parce que si vous vous dites, bon, je fais ci, aujourd'hui ça ne marche pas, demain je vais faire ça, ça ne marche pas, et ainsi de suite, vous allez faire des sauts de puce un peu partout et vous n'allez nulle part. Attendez de trouver votre voie avant de diversifier vos activités. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je savais que c'était un créneau qui était porteur, qui était intéressant, et que si donc je m'accrochais à ça, donc on y arriverait. Et c'est ce qui est arrivé.
D'accord. C'est intéressant, vous dites que vous saviez que c'était porteur. Comment est-ce que vous le saviez?
Bon, déjà, c'était un créneau vierge qui n'existe pas. Et puis, après, il y a le pouvoir de conviction. Donc, quand vous avez quand vous êtes convaincu de ce que vous voulez faire, vous allez vendre votre idée à celui qui veut l'acheter, à celui qui doit l'acheter. Même si la personne n'a pas l'intention de l'acheter, si vous êtes un bon vendeur, vous allez le voir, vous allez le convaincre d'acheter. Et ainsi de suite. Et donc, et l'autre question, c'est, bon, le résultat est toujours édifiant. Donc, je vous donne un exemple. Je suis arrivée une année, l'année où on a inauguré la BOA, la Bank of Africa, et je suis allée voir le directeur en demandant à décorer la BOA pour l'inauguration qui était prévue à l'époque avec le président Mamadou Tandja. Le monsieur, il a regardé son budget, il me dit non, qu'il n'a pas la possibilité de décorer parce que c'est un budget qui est très fort. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Ok, vous ne voulez pas décorer, je ne vais pas vous imposer. Mais par contre, pour l'événement que vous préparez, vous aurez besoin de déco. Moi, je ne vous demande rien. Je vais faire une exposition pendant votre événement. Ce que je vais exposer va servir de déco pour votre hall. Et puis, après l'événement, moi, je vais ramasser mon matériel et puis je vais partir. Il m'a dit, c'est touché coulé. On a fait comme ça. Donc, il y a eu l'inauguration avec le président, le premier ministre. Moi, j'ai fait mon exposition, j'ai décoré leur hall. Et puis, tout s'est très bien passé. Le président était content de voir qu'une Nigérienne faisait une exposition d'œuvres d'art et tout. C'était très bien. En partant de là, j'ai eu le marché de la primature. On m'a appelé à la primature pour venir décorer. Et finalement, l'étoile que j'ai accrochée là-bas juste pour leur décorer le hall à l'occasion de l'événement ne sont jamais parties. Ils les ont achetées.
Wow.
Donc, pour vous dire que, bon, ce n'est pas toujours que vous arrivez à convaincre le client, mais il y a toujours des façons de faire. Et puis, qu'on ne se dise pas, je veux vendre, je veux de l'argent. Et non, il faut voir au-delà de l'argent. Il faut offrir des services, il faut offrir des prestations, souvent contre rien, mais qui à terme peuvent ramener des contacts intéressants. C'est la petite anecdote.
C'est intéressant. Et du coup, oui, donc, en fait, on peut même parler d'audace, hein, c'est-à-dire que vous avez quand même très bien joué le coup, là, sur cet exemple.
Bon, l'audace, c'est vrai, c'est une qualité souvent très utile dans le business. Donc, il faut oser. Il faut oser, et c'est important. Et souvent, même en osant, ça vous donne confiance en vous. Vous dites, bon, ben, attends, je vais y aller. Tant mieux si ça passe, si ça passe pas. C'est pas grave, j'aurais essayé.
Exactement.
Donc, c'est comme ça que ça marche.
Et même au pire, même si ça n'a pas marché, la personne aura vu que typiquement vous avez eu de l'audace, ça peut
bien
toujours sûr. Être intéressant.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et du coup, juste pour revenir sur cet exemple, typiquement, enfin, nous, par exemple, c'est un peu la même chose comme on fait de la photo. C'est pas évident, c'est pas toujours évident de faire comprendre aux gens qu'ils ont besoin de photos de qualité pour leur plateforme, pour leur communication. Surtout que, bon, aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique, mais il y a tout un tas de téléphones qui permettent de faire des photos. Et c'est aussi très intéressant parce que, du coup, il y a beaucoup de monde qui nous dit non dans un premier temps. Et là, on va offrir un shoot, on va faire une petite séance, et après, on va contractualiser avec eux. Et ce que je pense qui est très intéressant là-dedans, c'est vraiment de pas faire ça pour l'argent, mais vraiment montrer que, bah, typiquement, qu'on peut satisfaire un besoin qu'ils peuvent avoir, on peut leur donner de la valeur. Et dans votre cas, typiquement, si la banque reçoit, bah, potentiellement des VIP, c'est quand même mieux d'avoir de beaux tableaux sur des murs que d'avoir des murs tout vides, quoi. Et en exposant, en offrant l'exposition, les gens ont pu voir vraiment dans la salle vraiment, bah, que ça apportait vraiment du cachet à la salle. Et derrière, je pense que c'est aussi ce qui a quand même aidé à...
Non, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, l'exposition a porté de l'émerveillement à l'inauguration. Mm-hmm. Parce que, bien sûr, inaugurer un beau bâtiment, c'est très bien. Mais l'exposition a amené du visuel à l'inauguration. Parce qu'il y avait, du coup, des sujets sur lesquels ils peuvent s'arrêter, deviser, regarder, pas seulement regarder des murs et s'en aller. Donc, il y avait un élément de culture qui était déterminant et qui était important. Mm-hmm. Donc, non seulement la banque a acheté, la BO a acheté, mais à la suite de ça, toutes les banques m'ont appelé, une à une.
Wow.
Donc, toutes les décos que vous voyez dans les banques, là, mm-hmm. sont venues de Soleil d'Afrique.
D'accord.
Oui.
OK. Félicitations.
Non, c'est pour vous dire que la force de la conviction. J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle « La force du focus ».
D'accord.
Donc, c'est-à-dire, si vous avez un projet, il faut vraiment y camper. Il faut vous accrocher à ça et il faut vous donner les moyens de vous organiser pour réussir l'événement. Il faut pas divaguer.
Mm-hmm.
Donc, c'est le fait de se disperser qui fait que on n'arrive pas à saisir quelque chose de façon permanente.
Mm-hmm.
Il faut trouver sa voie. Quand vous avez trouvé votre voie, à ce moment-là, vous pouvez diversifier les activités. Donc, mm-hmm. il faut garder le focus.
Ça, c'est intéressant. Mm-hmm. C'est vrai qu'on voit pas mal de monde, bah, surtout nous, dans l'audiovisuel, justement divaguer. On voit des gens qui passent typiquement du chant à la musique, puis de la musique à la vidéo, et de la vidéo à autre chose. Et c'est vrai qu'en restant concentré, on crée une expertise.
Exactement.
Et du coup, eh bien, à force, typiquement, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut avoir, comme on dit, de la chance, où c'est vraiment, il y aurait une opportunité, où de par l'expertise qu'on aura créée, qu'on sera capable de saisir.
Mmh.
Donc c'est vrai que c'est important de rester focus. Je voulais savoir, j'ai cru comprendre que vous avez eu un parcours notamment associatif autour de Soleil d'Afrique. Vous avez fait d'autres choses en même temps que Soleil d'Afrique.
Oh, j'ai fait beaucoup de choses.
Est-ce que vous pouvez nous revenir un peu dessus?
D'abord, avant Soleil d'Afrique, alors que j'étais à Air Afrique, j'étais membre donc de l'association des Nigériens d'Air Afrique.
D'accord.
On a une association des Nigériens d'Air Afrique dont j'étais la trésorière. On avait un président et moi j'étais la trésorière. Donc ça, c'était la première activité associative dans les années, 1980 ou 81, je ne sais plus.
D'accord.
Oui. Et puis, après, quand je suis rentrée au Niger, j'ai appartenu au Lions Club, mm-hmm. qui est un club service. Après le Lions Club, j'ai été présidente de l'amicale des anciens élèves du Collège Mariama.
D'accord.
Et puis, en ce moment, je dirige une association qui s'appelle Kautal Wafakai. Kautal du mot Peul qui dit réunion et Wafakai du mot germain qui veut dire union. Donc, Kautal, on se réunit dans la bonne entente pour apporter donc du développement aux populations nécessiteuses. Et j'en suis la présidente.
D'accord. Et du coup, comment vous est venu cet engagement, cette envie du coup de donner aussi toutes ces activités sur lesquelles vous investissez?
Bon, pour moi, je pense que ça a été naturel parce que, comme on dit, l'homme est un animal social. Donc, nous ne sommes que quand nous vivons dans un environnement, dans une société, n'est-ce pas? Et donc, pour être dans la société, il faut se manifester d'une façon ou d'une autre.
Mm-hmm.
Bon. Et la meilleure manière de se manifester pour acquérir l'adhésion des uns et des autres, et c'est d'ailleurs pour ça que l'être humain est fait, pour interagir avec l'autre. Donc, quand vous êtes en face d'une population démunie, ça appelle votre cœur. Forcément, vous vous mobilisez. Et souvent, on a l'impression que ceux qui pensent qu'ils apportent du soulagement sont ceux qui donnent, mais en réalité, c'est un échange. Mm-hmm. Parce que quand on arrive dans un environnement comme celui-là, il y a une interaction. On apprend aussi de ceux qui sont là. On apprend l'humilité, on apprend le partage, on apprend la compréhension, on apprend l'écoute. Autant de choses qui sont utiles et indispensables à une vie heureuse et harmonieuse. Et donc, vraiment, chez moi, c'était tout naturel. Et pour tout vous dire, souvent, on vient me chercher pour faire partie de l'association. Parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, peut-être que ça n'est assez, avec le grand âge, il faut se reposer un tout petit peu. Mm-hmm. Et finalement, non, on me sollicite, non, tu as l'expérience, viens aider. Et puis, bon, pour ça, je ne résiste pas, je réponds toujours présent à l'appel.
D'accord. Une petite aparté sur l'entrepreneuriat. J'ai lu quelque part que vous participez à des Toastmasters.
Oh oui, j'ai créé le Toastmaster. Je participe pas, je l'ai créé.
Ok. Le Toastmaster du coup au Niger?
Absolument. D'accord. C'est-à-dire moi je fais partie du Toastmaster en Côte d'Ivoire. J'ai connu le mouvement Toastmaster en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Et je sais tout ce que le Toastmaster m'a apporté.
D'accord.
Et pour tout vous dire, dans le passé, une conversation comme celle-là, je n'aurais peut-être pas pu la tenir. Mm-hmm. Quand j'ai pris en charge le service de fidélisation, j'étais en réunion un jour avec mon patron, une réunion que j'ai dirigée, et j'avais des partenaires français qui étaient là. Donc, j'étais la responsable du service fidélisation. Mais c'était une réunion sous l'égide de mon patron, mais que je présidais. Alors, quand on était une vingtaine autour de la table, quand j'ai pris la parole pour mon petit mot introductif qui a duré 7 minutes, mon patron, quand il a vu que j'ai commencé à trébucher, il a pris un bout de papier et puis il a fait des traits. Je disais beaucoup « donc ». Et chaque fois que je disais « donc », il fait un trait. Chaque fois que je disais « donc », il fait un trait. Au bout de 7 minutes d'intervention liminaire, j'avais dit plus de 50 « donc ». Alors, à la fin de la réunion, il m'a appelé et me dit « Ah, j'ai été écouté attentivement parler, voilà ce que tu as comme problème. » À partir de là, je me suis dit « Bon, il faut que je trouve une tribune où je vais apprendre à m'exprimer sans trop de béquilles. Mm-hmm. » On en a tous, hein?
Oui.
Donc, souvent, c'est des gestes, souvent, c'est des regards fuyants, souvent, c'est des mots comme « donc » sur lesquels on s'appuie. Et dans le souci de l'amélioration de cette lacune-là, j'ai cherché une tribune. Et j'ai trouvé le Toastmaster. C'était un club interactif. Il n'y avait pas d'enseignants ni d'enseignants. Donc, on était une vingtaine ou une trentaine de personnes. On se retrouvait une fois par semaine. Et chacun évaluait l'autre et lui apportait les correctifs nécessaires pour qu'il s'améliore. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup apprécié d'appartenir au Toastmaster en Côte d'Ivoire. Et quand je suis rentrée au Niger, en regardant la télé, en regardant comment les gens trébuchaient sur la façon dont ils s'exprimaient, je me suis dit que ça va être utile dans l'environnement. Mm-hmm. Et donc, j'ai pris en charge de mettre en place un club Toastmaster qui existe toujours,
d'accord,
d'ailleurs. Et qui, voilà, il existe toujours. Il opère toujours à Africa Hall, parce que c'était là que je l'avais installé, à Africa Hall.
Qu'est-ce que Africa Hall?
Africa Hall, c'est une structure qui reçoit des réunions et ils se réunissent. D'accord. Le Toastmaster se réunit deux fois, le premier et le troisième samedi du mois, deux fois par mois.
D'accord.
Premier et troisième samedi du mois à Africa Hall. Et il y a des séances qui durent de 9h à midi. Et donc, dans ces séances-là, des séances interactives où les gens apprennent le leadership, ils apprennent l'art oratoire. Et depuis, d'ailleurs, le club a donné naissance à beaucoup d'autres clubs parce que c'est ça l'intérêt de Toastmaster. C'est-à-dire, sa vocation à essaimer. Il faut que d'autres clubs naissent du club d'origine pour que une majeure partie de la population puisse en profiter. C'est comme ça que la nation peut en profiter. Et je crois que ça fait toujours des émules. Moi, j'ai beaucoup d'autres activités. Je ne participe plus au Toastmaster, mais je sais qu'il existe encore. Et de temps en temps, je fais des petites apparitions là-bas, histoire de se souvenir que c'est un peu mon bébé.
D'accord. Et du coup, on peut toujours s'y inscrire?
Ah oui, absolument.
D'accord.
Oui.
Et pour ceux qui vont écouter, est-ce qu'il y a un coût pour l'inscription?
Oui. C'est une cotisation de 10 000 francs par mois.
D'accord.
Qui vous donne droit à un kit de Toastmaster. Mm-hmm. Mais le Toastmaster est un club qui est né aux États-Unis, mais désormais il y a la version française.
Oui.
Et dans les pays anglophones, c'est très courant. Dans les pays anglo-saxons, c'est très courant.
C'est vrai.
Même au Canada, où ils ont des anglophones et des francophones, les Toastmasters, c'est très, très, très courant.
Mm-hmm.
C'est l'école traditionnelle française qui se contente de nous ingurgiter juste des matières à l'école, il ne nous apprend pas à être.
Non.
Alors que dans les, dans la tradition anglophone, parallèlement à ce que la personne apprend à l'école, on apprend à la personne à être.
Mm-hmm.
Comment s'améliorer, comment prendre en charge telle chose, comment parler aisément pour se faire entendre. Parce que ce n'est pas tout. Il y a des gens qui parlent, mais on ne les écoute pas.
Mm-hmm.
Donc, comment parler pour se faire entendre et comment écouter? Comment avoir une écoute attentive? Ce n'est pas toujours évident.
Oui, c'est un,
il
c'est
faut être point. Éveillé à ça.
C'est vrai. Et il y a beaucoup de monde qui ont de très bonnes idées, mais qui ont du mal à les exprimer.
Bien sûr.
Et moi-même, j'ai eu pas mal de problèmes d'élocution.
Oui.
Donc, quand j'étais jeune, j'allais voir notamment une orthophoniste. J'ai fait du Toastmaster pendant mes études.
D'accord.
Parce que j'avais déjà eu un premier projet entrepreneurial, mais pareil... J'avais du mal à parler, j'avais du mal en public, et ça m'a beaucoup aidé.
Et c'était pour ça que, où le Toastmaster?
Alors j'ai commencé sur Paris,
oui.
Et après j'ai fait ça en type, donc dans le sud-ouest où j'ai terminé en fait mon master.
D'accord.
Et donc au cours de ce master-là, comme j'avais l'habitude de, enfin je pitch, j'avais une tendance à pitcher, et en fait pour aller un peu plus loin dans la démarche, du coup je m'étais inscrit au Toastmaster comme j'étais dans un incubateur d'entreprise, et ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que c'est très important parce que moi-même, quand je parlais de moi avant, maintenant, aujourd'hui, moins.
Ouais.
Mais j'avais, dans ma tête, j'avais
c'est
des choses qui étaient très
nuit.
Concrètes. Ah oui. Non, ça aide beaucoup.
Ouais.
Et du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui sont potentiellement intéressés, je les invite à aller voir ce qui se passe. C'est toujours aidant et voilà, ça rajoute toujours une corde à notre arc, quoi.
Ah oui, absolument.
Non, c'est très intéressant. Et du coup, vous êtes à Soleil d'Afrique. On arrive dans les années, fin des années 2000, fin 2000-2010. Vous avez un poste ministériel?
Oui, alors les choses se sont passées graduellement. Donc en 2002, j'ai créé Soleil d'Afrique, qui à l'époque était logé dans une petite villa très modeste.
Mmh.
Et comme je vous ai expliqué, je faisais des interventions en matière de décoration intérieure. D'abord, c'était une exposition à BOA après laquelle le Premier ministre m'avait demandé de venir décorer son bureau à la primature. Et donc, en décorant le bureau du Premier ministre à la primature, je l'ai décoré une première fois. Et puis, quand ça s'est défraîchi, quelques années après, on m'a encore rappelé pour le décorer. Et pendant que je faisais la deuxième décoration à la primature, je faisais aussi la promotion du Toastmaster. Parce que j'arrivais dans un milieu donc, de haut cadre à la primature et je voulais que j'avais le souci que chacun puisse s'exprimer comme son poste l'exige. Et je faisais la promotion du Toastmaster et je venais aussi de créer le club Lions Club Niamey Prestige, le club Niamey Prestige. Et donc j'étais très 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 active. Et la même année, en 2009, il y a eu une crise au sein du gouvernement et un des partis politiques a quitté le gouvernement, ça a libéré des places. Et donc, pendant que j'étais active, probablement un premier ministre, je ne sais pas qui, en tout cas quelqu'un m'a marqué et ils m'ont sollicité pour faire partie du gouvernement au moment où certains partis politiques claquaient la porte.
Mm-hmm.
Alors, bien sûr, pour moi, c'était une surprise parce qu'habituellement, les postes ministériels sont réservés à ceux qui font de la politique. Moi, je n'en faisais pas.
Et oui.
J'étais juste un opérateur économique qui avait le souci donc, de bien faire, qui s'était donné à des activités associatives et qui était présente sur la scène et qui offrait probablement des prestations de qualité, non seulement dans le domaine des activités associatives, mais aussi dans la profession que j'avais choisi d'exercer. Et c'est comme ça qu'on m'a sollicité pour être ministre du tourisme et de l'environnement.
D'accord.
Pour vous dire que tout est lié, hein?
Ah, oui.
Rien ne tombe du ciel. Donc, les choses s'enchaînent les unes à la suite des autres.
Mm-hmm.
Et bon, pour peu que l'on fait bien, on peut croire que, bon, ça finit pas.
Mais oui. Non, puis ça s'enchaîne bien. Et c'est ça, c'est pareil. Là, quand on écoute, si on revient sur tout l'interview,
oui.
On peut avoir justement, c'est comme on le disait d'ailleurs, comme vous l'avez bien dit au début, que vous avez eu de la chance. Mais on voit que vraiment, vous avez créé votre parcours, vous avez créé ces opportunités,
oui.
et elles vous sont tombées. Et je pense que c'est très inspirant pour moi-même, comme pour toute la jeunesse. Et oui, du coup, on en a un peu plus loin du coup, dans la démarche. Du coup, vous êtes resté combien de temps à ce poste-là ?
Un an.
D'accord.
Un an. Donc, un an, mais j'ai dû partir à la faveur du coup d'État.
Et oui.
Parce que, mm-hmm. Voilà.
D'accord. Et donc là, vous partez, vous revenez dans Soleil d'Afrique.
Oh oui, dès le lendemain.
D'accord.
Dès le lendemain. Ce qui a surpris beaucoup de gens, d'ailleurs, parce que dès le lendemain, d'abord, quand il y a eu le coup d'État, je n'étais pas là. Moi, j'étais en mission à l'intérieur du pays. Et donc, dès que j'ai appris qu'il y avait coup d'État, j'ai pris ma voiture, je suis rentrée.
Mm-hmm.
Donc, je suis rentrée, je me suis présentée, on m'a dit, non, on n'a pas besoin de vous, il n'y a rien. OK, je continue à vaquer à mes occupations. Dès le lendemain, j'ai pris ma voiture, je me souviens que j'avais rencontré un responsable dans le système des Nations Unies. Dès le lendemain, j'étais au volant de ma voiture, et il regardait avec insistance pour être sûr que c'était la ministre qui était au volant. C'était bien moi, donc j'ai aucun souci avec ça. Donc, j'ai repris mes activités à Soleil d'Afrique, j'ai repris mes activités dans les clubs associatifs et je suis restée ce que je suis.
Du coup, pendant votre poste ministériel, vous avez tout mis en suspens, donc à la fois Soleil d'Afrique et vos activités associatives?
Alors, les activités associatives, j'ai continué parce que c'était vraiment une passion. J'allais à quelques réunions. Soleil d'Afrique, là j'ai dû céder ça à une de mes filles qui s'en est occupée, c'était Oma qui s'en est occupée.
D'accord.
Et puis quand je suis sortie de là, j'ai repris les activités.
D'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que le Soleil d'Afrique après le poste ministériel est le même que celui qu'il était avant?
Alors oui, pendant plus d'un an il a été le même.
D'accord.
Et puis plus tard, à la faveur d'une notification dans le journal, donc des bâtiments avaient été mis en location au village de la Francophonie.
Mm-hmm.
Et j'ai soumissionné et j'ai été attributaire donc, de ces bâtiments-là. J'ai cherché en fait un espace beaucoup plus grand pour offrir justement de la visibilité à Soleil d'Afrique. Alors qu'initialement, on était dans une petite villa. Et là, pour les besoins de nos expositions d'envergure, pour les besoins d'organisation d'événementiel, donc j'ai cherché un espace plus grand. Je suis tombée sur ça et j'ai été attributeur de ces bâtiments. Et c'est comme ça que Soleil d'Afrique est installé aujourd'hui sur un périmètre de 12 500 m².
D'accord.
Avec 6 salles polyvalentes.
Wow.
Et puis un jardin botanique, un jardin d'agrémentation, un verger. Et une esplanade pour faire du spectacle, parce que c'est un centre culturel.
Mmh.
Voilà.
D'accord. Et donc, du coup, on peut retrouver le Soleil d'Afrique dans la cité du coup, de la Francophonie.
Absolument.
D'accord.
Vous devriez venir visiter, ça va vous plaire.
Ah oui,
vous qui aimez faire des photos, là, mmh. Vous allez voir de très belles images.
Impeccable, on va aller voir ça. D'accord. Et du coup, on va s'approcher de la fin de cet entretien. Je voulais juste savoir, est-ce que typiquement, pour Soleil d'Afrique, est-ce que vous avez eu accès à des financements ou est-ce que vous avez financé Soleil d'Afrique sur fonds propres? Comment est-ce que ça s'est passé?
Alors, oui, initialement, ça a été financé sur fonds propres.
D'accord.
Pendant longtemps, jusqu'en 2010.
D'accord.
En 2010, quand on a dû s'installer donc, dans cet espace qui est beaucoup plus grand et qu'il fallait l'aménager, à ce moment-là, j'ai sollicité la banque dont j'étais partenaire. Donc, il m'a financé pour la réalisation de nos besoins.
D'accord.
Et oui, c'est grosso modo ça. Aujourd'hui, d'accord, on attend encore des financements, mais le monde du crédit et des financements est très fermé pour les femmes, je pense. Mm-hmm. Voilà. Non, les femmes, alors je ne sais pas.
D'accord.
Avec toutes les ouvertures qui se font aujourd'hui, si les jeunes n'empathisent pas beaucoup. Mais de mon expérience, je me rends compte que c'est pas aisé, c'est pas aisé. Donc on donne moins facilement aux femmes et aux jeunes que
qu'un homme cadre typiquement.
Qu'un monsieur, à mon sens. Hein.
D'accord. Oui. Ok. Du coup, auprès de la banque, c'est un prêt que vous avez sollicité.
Ah oui, c'est un prêt dans une banque commerciale, donc à un taux régulier, okay, mais remboursé depuis, bien sûr.
D'accord.
Oui.
Ok, et du coup, là, vous envisagez d'engranger d'autres financements?
Oui, absolument. On est en recherche de financement aujourd'hui pour, d'une part, réhabiliter Soleil d'Afrique, pour le moderniser et aussi pour diversifier les activités. Donc, on veut le moderniser parce que c'est une structure qui date de 2004. Les bâtisses ont été construites en 2004, donc c'était des matériaux qui ne sont plus d'aujourd'hui, mm-hmm, qui datent de l'époque.
D'accord.
Et donc, si on veut aller de l'avant, il faut non seulement moderniser, mais aussi diversifier les activités. C'est important.
D'accord. Et ouais, donc, si potentiellement, il y a un investisseur là, qui écoute, dans quelle mesure est-ce que vous voulez diversifier vos activités?
Alors, nous sommes des salles polyvalentes dont le taux d'occupation aujourd'hui laisse un peu à désirer pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu la pandémie de COVID-19 qui nous a mis à l'arrêt pendant plusieurs mois. Mais la seconde raison dans l'environnement, c'est l'avènement des nouveaux hôtels et du centre Mahatma Gandhi, qui offrent des structures modernes, de qualité, et qui font que Soleil d'Afrique, en tout cas en tant que structure, n'est plus très concurrentielle. Alors, donc, il est nécessaire pour nous de moderniser et d'assurer que nous allons avoir un taux d'occupation correct de nos salles. Et pour ça, on va aller dans la formation continue.
D'accord.
Voilà, on va aller dans la formation. On continue à faire ce que nous faisons. Hein. On fera toujours de l'événementiel. J'ai d'ailleurs une exposition d'œuvres d'art initialement prévu en janvier, mais qui va probablement se faire en mars, parce que à cause de la pandémie, comme il y a beaucoup d'activités qui sont restreintes, donc je vais la reporter au mois de mars, une exposition d'œuvres d'art, et puis on continue à recevoir des banquets, et puis des ateliers à la demande, mais à terme, on va aussi en faire un centre de formation continue permanente.
D'accord. Et ce sera donc quel type de formation qu'on pourra y recevoir?
Bon, nous avons une banque de données de professionnels de la formation continue.
D'accord.
Et donc, nous pouvons monter à la demande la formation sollicitée par le client.
D'accord.
Il n'y a pas de limite.
Impeccable. D'accord.
Ça va être des formations dans le genre renforcement de capacité ou peut-être aussi des petites formations dans l'apprentissage, donc des métiers à haute densité de revenus, donc des choses comme cela.
D'accord. Juste avant de conclure, donc ça fait un moment que vous êtes dans l'entrepreneuriat, plutôt l'entrepreneuriat culturel du coup. Vous avez dû voir tout un tas de choses. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes? Des petites erreurs qu'éventuellement vous avez faites qui vont nous permettre, donc à nous, jeunes, d'éviter de faire les mêmes erreurs?
Bon, il est difficile d'identifier des erreurs là, comme ça, tout de suite, après coup. Mais le conseil que je donnerais, si je peux me permettre, c'est qu'il faut toujours croire en soi. Il faut avoir du courage, il faut persévérer. Il faut camper à son idée et il ne faut pas se laisser décourager. Parce que souvent, ce qui arrive, je vous ai dit qu'à un moment, je prenais mes toiles et puis j'allais de bureau en bureau pour les présenter. Si je m'étais laissé envahir par mon ego et par un quelconque découragement, j'y serais jamais arrivée. À la première occasion de de refus, j'allais me rebiffer et puis peut-être ça n'était fini pour moi. Donc, il ne faut pas se décourager. Quand on a une idée et que l'on y croit, il faut s'accrocher à l'idée. Donc, il faut s'armer de courage, de persévérance et aussi d'humilité. Parce que ça, c'est très important. Il ne faut pas... Si, à l'époque, je m'étais dit, bon, attendez, moi, j'étais une grande patronne à Air Afrique, je rentre maintenant, je suis obligée d'aller de bureau en bureau pour présenter des toiles. Je ne peux pas le faire. Si j'avais manqué d'humilité, je n'aurais pas pu. Donc, l'humilité, c'est très important. Il faut croire que dans le monde, on est tous égaux. Et chacun cherche sa voie. Et que trouver sa voie n'est pas toujours évident. Il faut se donner le temps d'y arriver. Comme dit l'adage, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On peut trébucher, mais il faut savoir se relever et continuer. Et c'est ça le conseil que je donnerai aux jeunes entrepreneurs.
Merci, merci pour ces belles paroles. J'ai vu tout à l'heure donc vous nous avez lu un adage. Où est-ce que vous la recevez? Comment est-ce que vous la recevez? Ça peut toujours être, c'est toujours une inspiration.
On a un groupe d'amis.
D'accord.
Un groupe WhatsApp où on s'entretient de temps en temps et tous les matins on a une pensée du jour.
D'accord.
Une pensée du jour qui peut être motivante, inspirante et la pensée de ce jour, c'était celle-là.
D'accord. Merci bien. On va donc clôturer cet entretien. Pour si on veut retrouver du coup Soleil d'Afrique, où est-ce qu'on peut vous retrouver?
Je dois vous donner des coordonnées, c'est ça?
C'est ça.
Alors, Soleil d'Afrique, c'est au village de la Francophonie, dans l'enceinte du village de la Francophonie. On ne s'y trompe pas. Quand on arrive par la porte principale, on va tout droit. Après, on va arriver au bout de, 300 mètres, une grande clôture avec des peintures sur les murs, des peintures.
D'accord.
Artistique sur le mur.
Okay.
Et c'est là, Soleil d'Afrique. C'est indiqué en grand, on ne s'y trompe pas.
Impeccable.
Donc, et pour le téléphone, 94 94 73 73.
Merci.
C'est très facile à retenir.
Ouais.
Et pour l'adresse email, c'est soleildafrique@gmail.com.
Impeccable.
Tout simplement. C'est Soleil avec S.
D'accord.
Et Soleil d'Afrique en un seul mot.
Voilà,
@gmail.com.
D'accord. Et donc, toute dernière question. Est-ce que vous avez un ou plusieurs entrepreneurs du coup dont vous pensez qu'ils peuvent donc inspirer la jeunesse nigérienne ainsi que la diaspora et tous les autres entrepreneurs?
Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et ce qui me rassure aujourd'hui, c'est que les jeunes ont de l'ambition, ils s'investissent. À l'époque, les jeunes, ils allaient à l'école, ils faisaient des études supérieures et ils venaient chercher un emploi dans la fonction publique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous rencontrez des jeunes, chacun veut monter son entreprise. Il a une petite idée, mais il veut creuser et puis monter son... Donc, je suis vraiment rassurée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'environnement. Maintenant, pour vous donner le nom d'un jeune inspirant, je pense à Cédric Boubacar.
D'accord.
Cédric Boubacar est un jeune qui est dans l'informatique.
D'accord.
Il a créé une entreprise qui s'appelle VirtuProf. VirtuProf est supposé apporter de l'aide aux élèves, mais de façon virtuelle.
D'accord.
C'est-à-dire, si vous êtes un élève dans quelque classe que ce soit, si vous avez, au lieu que les parents prennent un répétiteur à la maison, vous pouvez vous abonner à VirtuProf. Et vous aurez toutes les réponses à vos questions par VirtuProf. Ça se fait de façon virtuelle. Et c'est aussi efficace que le répétiteur qui est en face de vous et qui souvent n'est pas toujours très content.
Impeccable. Merci, merci pour ce beau pitch de VirtuProf.
Il y a pas de quoi.
On va contacter l'entrepreneur. Du coup, je vous remercie pour cet entretien.
Merci. Merci beaucoup.
Merci.
C'était un plaisir. J'espère que ça va être utile, en tout cas.
En tout cas, je le pense bien. Bah, moi, déjà, ça m'est bien utile et je pense que ça va en aider plus d'un.
Magnifique.
Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il te motive. Si tu veux louer un espace pour des événements ou autres,
ou même rencontrer Madame Sani, contacte Soleil d'Afrique. Les liens sont dans la description. Par ailleurs, on va faire des sondages et lancer des exclusivités sur notre liste de diffusion WhatsApp. Pour la rejoindre, rien de compliqué, tu m'envoies podcast sur WhatsApp au plus 227 80 19 00 00. Par ailleurs, on cherche toujours des sponsors pour traduire ces épisodes en langue locale. N'hésite pas à me contacter à alex@afroto.com. Sur ce, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode.